matin, frères et sœurs, j'aimerais vous amener dans les champs de la Judée à l'époque de la moisson de l'orge sous un soleil chaud et radieux. Comme, presque comme nous autres. Hein? Pour vous faire oublier le froid glacial du mois de novembre. Et le titre de mon message est celui-ci. Ruth et nous. Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. C'est le seul endroit, ce que je sache dans le Nouveau Testament, que le nom de Ruth est mentionné. Mais ça nous montre ceci, c'est que cette femme dont on va voir l'histoire tantôt, a joué un rôle beaucoup plus grand que ce à quoi elle s'attendait. Elle a été devenue l'épouse de Boaz et tout cela, mais on va voir son service et le reste. Mais sa vie a eu un impact beaucoup plus grand que ce qu'elle pensait. Elle est entrée dans les ascendants du roi David et finalement du Messie. Et je vais vous montrer, frères et sœurs, au travers de ce message ce matin, que votre vie, notre vie, peut avoir un impact bien plus grand que ce à quoi on pense. Bien plus loin que ce à quoi on pense. Parfois, on voit notre petite vie, mais Dieu voit plus grand que ça. Alors, dans le livre de Ruth, nous lisons ceci. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Mahlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta seule avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa, l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. C'est un petit livre, 4 chapitres seulement. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment lu ce livre-là, parce qu'il faut le remarquer. Il est juste à la fin du livre des Juges, avant Samuel, alors il faut le remarquer. Mais c'est une histoire qui est significative pour nous, riche d'enseignements. Et en fait, la vie de Ruth, c'est l'image de tout chrétien, dans 4 éléments qu'on va voir tantôt. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'ils avaient quitté Bethléem. Le nom de Bethléem veut dire la maison du pain, parce qu'il y avait une famine. Et ils sont allés dans le pays de Moab. Il faut savoir que les Moabites étaient pendant longtemps des ennemis d'Israël. Mais à cette époque-là, il semble que les enfants d'Israël entretenaient des relations amicales avec les gens de Moab. Et on voit que finalement, ça s'est aussi soldé par des mariages. C'est une histoire qui commence mal, parce qu'on voit ici qu'après être allés, non seulement ils ont quitté la famine, mais après être allés s'installer en Moab, Élimélec est décédé, et par la suite, les deux fils sont décédés. Ruth est restée veuve avec ses deux belles filles. Une histoire qui commence mal, mais qui finit bien. C'est comme dans les films. Je crois que le moral de Ruth devait être au plus bas, ayant perdu son mari, ses deux fils, ses deux belles-filles qui n'étaient pas juives et qui auraient pu très bien demeurer toutes les deux dans leur pays d'origine, ce que l'une a fait. Et il faut savoir qu'une veuve à cette époque-là, eh bien, était souvent condamnée à la pauvreté. Il n'y avait pas de programme d'assistance sociale comme on peut voir aujourd'hui, quoique les gens étaient appelés à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Mais sa vie allait pas très bien et devait être moralement assez affectée. Mais elle a appris qu'il y avait du pain à Bethléem à nouveau et décidé d'y retourner. Et cette histoire, frères et sœurs, c'est un récit de la grâce de Dieu envers tous ceux et celles qui veulent lui faire confiance. La grâce de Dieu, sa faveur envers chacun de nous, c'est ce qu'on va voir ce matin. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous parler un peu de Naomi. Naomi était dans la peine, dans la tristesse, dans le deuil, et envisageait un avenir pas très joyeux. Il n'y a pas longtemps, on a reçu ici à la rencontre des aînés un couple de Drummondville, Julien et Sylvie. Et ils nous ont partagé, en fait c'est Sylvie qui a partagé un témoignage. Ils ont partagé beaucoup de chance, ça a été très apprécié. Elle a partagé un témoignage d'un accident que Julien a eu il y a peu plus de 11 ans, alors qu'il se rendait travailler un matin sur l'autoroute 20 à Rimouski, un camion, c'était en hiver, un camion a perdu le contrôle de son véhicule et est venu frapper le véhicule de Julien. Et Julien a subi une fracture ouverte du crâne, il a perdu l'œil gauche, et par la suite, on l'a plongé dans le coma pendant 3 semaines. Et en fait, sa vie était incertaine. Il était entre la vie et la mort dans les heures qui ont suivi l'accident. Et suite à cet accident-là, il est allé en réhabilitation par la suite, et ça a été assez long. Et je me souviens d'avoir visité une fois dans ce centre de réhabilitation, j'étais allé avec un frère, on est allé le voir là, et dans ses propos, c'était tout à fait incohérent. Il y avait un petit progrès, mais pas physiquement ça allait, mais là, ça allait vraiment pas. Et ce frère et moi, on s'est dit, quand on est parti, il faudrait qu'on prie fort maintenant pour Julien. Ce que Sylvie nous a partagé, c'est que lorsque Julien est revenu du coma, à l'hôpital, il y avait des propos incohérents, mais quand il chantait, il ne se trompait pas dans les chants. Quand il chantait des chants de louange, il ne se trompait pas. Mais quand il parlait, ça n'avait ni queue ni tête. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Hein. Les médecins aussi ont dit à Sylvie que dans la première année, c'est là qu'il se fait le plus de progrès. Et en fait, ils ont constaté, au bout d'une année, que Julien a fait beaucoup plus de progrès que ce à quoi il s'attendait. Merci Seigneur. Une autre chose aussi qu'ils avaient dit à Sylvie, c'est que souvent, un individu qui a un traumatisme crânien sévère a un caractère assez agressif. Et dans son cas, pas du tout. Merci Seigneur. Évidemment, Julien a perdu des capacités intellectuelles. Il avait 46 ans au moment d'accident, puis il est devenu invalide, ne pouvait plus continuer à travailler comme il faisait auparavant. Mais Dieu avait donné une parole à Sylvie la veille de l'accident. Elle était chez elle, et Dieu lui avait dit, « Fais-moi confiance. » Elle ne savait pas pourquoi. Le lendemain, elle a su. Et cette parole-là l'a réconfortée. « Fais-moi confiance. » Et je crois, frères et sœurs, que Naomi était appelée à faire confiance au Seigneur aussi. Mettre sa confiance en Dieu pour la suite des événements. Sylvie nous avait dit qu'elle ne savait pas si un jour elle pouvait chanter à nouveau avec Julien, parce qu'il a fallu qu'elle réapprenne à parler correctement, à jouer de la guitare. Et il a fait bien. Merci Seigneur. Suite à leur venue, je leur ai envoyé un courriel, puis voici ce qu'elle m'a répondu. Je suis bien contente de savoir que les gens ont été encouragés par notre témoignage et je remercie Dieu de nous donner le privilège de le servir de cette façon encore aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi l'accident est arrivé. Et il arrive des malheurs des fois dans la vie des croyants, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Comme le malheur qui est arrivé pour Naomi. Mais on va voir ce matin au travers de cela que Dieu a changé cela en bonheur. Dieu a changé le malheur en bonheur. Dieu peut changer les circonstances de notre vie, frères et sœurs, pour faire quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas comment. Et souvent même, là, au départ, Naomi ne voyait pas ce qui pouvait arriver de mieux. Mais Dieu, lui, avait des projets. Le psaume 34, le verset 18, nous dit ceci. « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour sa bénédiction et pour sa parole. Et c'est vrai pour nous cela. Un juste cri, l'Éternel entend. Nous ne nous laissons pas envahir, frères et sœurs, par le découragement parfois, par la déprime, parce qu'on ne voit pas l'avenir rose, parce que les choses ne semblent vraiment pas bien aller. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il faut savoir cela. Alors, Naomi dit à ses deux filles, retournez, prenez des maris maintenant, moi je ne peux pas avoir d'autres fils, alors prenez des maris, puis vous mariez-vous. Orpa est retourné vers les siens, mais Ruth s'est attachée à sa mère. Et c'est le premier élément que je veux voir avec vous, une décision. Naomi dit à Ruth, tu vois ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Si autre chose que la mort, me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Ruth est une étrangère qui s'est engagée à suivre Naomi, et non seulement à suivre elle, mais à prendre le Dieu Naomi pour son Dieu, vraiment à faire cause commune avec elle, à changer de peuple, autrement dit, pour s'attacher à Naomi, à un nouveau peuple. Je crois que le témoignage de Naomi avait un impact dans la vie de Ruth. Malgré le deuil, malgré la peine, frères et sœurs, on reste des témoins du Seigneur. Malgré les épreuves, on est des témoins du Seigneur. Malgré des fois que ça ne va pas du tout, les gens nous regardent et ils vont nous voir aller, mais ils voient qu'on met notre confiance en Dieu et que petit à petit, Dieu nous relève. Dans les temps difficiles, sachez ceci, vous demeurez des témoins de Jésus. Même si ce n'est pas votre meilleur, si on n'est pas trop en train de louer le Seigneur, tout va bien, alléluia, ce n'est pas trop évident. Mais Dieu est là, il nous accompagne. Et Ruth s'est décidée de la suivre et une décision à 100%. Je vais aller où tu vas aller. Je vais te suivre, je vais faire comme toi, je vais être avec toi. Frères et sœurs, je crois que la conversion à Jésus, c'est un engagement irrévocable. Vous voyez ça? Irrévocable, ça veut dire qu'on ne revient pas là-dessus. C'est décidé et c'est décidé pour la vie jusqu'à la mort. La conversion à Jésus, c'est cela. Si Ruth avait connu le chant, elle aurait pu chanter « Donne-moi le courage de quitter mon rivage. » C'est ce qu'elle a fait. Puis elle a suivi Naomi. La conversion à Jésus, c'est vraiment de se repentir de ses péchés, de le reconnaître comme notre sauveur personnel, de commencer à marcher avec lui pas à pas et de le suivre quoi qu'il arrive. Le Seigneur nous appelle à cela. Et Ruth dit quoi? J'irai. Ça parle d'une obéissance entière. Sans discussion, sans argumenter. Une obéissance entière, Seigneur, je vais accomplir ta volonté. Il nous enseigne à prier, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre. Ça veut dire dans ma vie. Pas juste pour les autres, dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Quoi qu'il m'en coûte, Seigneur, je suis prêt à te suivre, à mettre en pratique ta parole. Ruth ne connaissait pas la suite des événements. Elle ne savait pas tout ce qui arriverait, mais elle était décidée. Le Seigneur a dit ceci un jour, alors que beaucoup de foules le suivaient. Dans l'évangile de Luc, il dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Beaucoup de gens suivaient parce qu'ils voyaient des miracles. Mais Jésus maintenant dit, c'est pas seulement de voir les miracles. Vous voulez me suivre? Vous voulez vraiment être mes disciples? Voyez le prix que vous avez à payer. Voyez ce qu'il faut faire. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit seulement des sympathisants ou des spectateurs, mais qu'on soit des acteurs, qu'on participe pleinement à sa vie, à son œuvre. Parce que la vraie vie, c'est trop, voyez-vous. La vraie vie en Jésus, c'est l'engagement, de le suivre pleinement, sans regarder en arrière. C'est là que notre existence prend tout son sens, que notre vie vraiment devient quelque chose qu'on apprécie, une vie satisfaisante, c'est là qu'on trouve le bonheur et la joie. Alléluia! Quel privilège, frères et sœurs! Mais il y a une croix à porter. Et la croix, c'est la souffrance à cause de notre foi. Ça peut être le rejet, le mépris, être mis de côté. Dans certains pays, c'est la persécution. Peut-être même certains ont eu de l'opposition, des fois très grande, de votre famille. La croix, c'est cela. Souffrir, mourir à sa propre volonté. Et c'est là que notre vie porte du fruit. Ruth a dit, j'habiterai. Ça nous parle d'une fidélité absolue à la famille de Dieu. Aimez-vous la famille de Dieu? On avait un chant à Rimouski, on ne chante pas ici, à propos de la famille de Dieu. Je trouvais ça, on chante de temps en temps, j'aimais ça parce que ça nous fait réaliser d'apprécier nos frères et sœurs. La famille de Dieu. J'habiterai où tu vas habiter. Faites fidèle à la famille de Dieu, quoi qu'il arrive. Et dans une famille, frères et sœurs, des fois, des chicanes. Ça arrive. Des fois, il y en a qui nous irritent un peu. Toujours quelque chose qui arrive dans une famille, hein? Mais on ne quitte pas la famille pour autant. On reste ensemble. Ton peuple sera mon peuple. La Bible dit quoi? Avant notre conversion, on était sans espérance, sans Dieu. On ne participait pas aux promesses. Laissé à nous-mêmes. Maintenant, on appartient à la famille de Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et l'apôtre Pierre a dit ceci, a écrit ceci plutôt. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Alléluia! N'est pas n'importe qui! Le peuple de Dieu, choisi, mis à part pour lui. Ruth a dit quoi? Ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire qu'elle était prête à abandonner toutes ses anciennes croyances. Elle avait des dieux dans le pays de Moab. Prête à abandonner toutes les anciennes croyances, les anciennes pratiques, les anciennes choses pour s'attacher au Dieu véritable. Est-ce qu'il y a une croyance qu'on devrait abandonner? Quelque chose que tu pratiques, que tu ne devrais plus pratiquer? Un mode de vie? Ou toute chose qui peut prendre la place du Seigneur Jésus? Et Dieu parle à notre cœur. Le Saint-Esprit va nous éclairer et nous convaincre des fois sur des choses qu'on doit abandonner. Ne reportez pas plus tard, mais décidez-vous maintenant. Il vous appelle aujourd'hui à suivre. Elles sont retournées donc à Bethléem. Et le deuxième point est celui-ci, le service. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ derrière celui aux yeux duquel je trouvais grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Élimélec. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs, et depuis son arrivée ce matin, jusqu'à présent, elle est restée debout, ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Pour les étrangers, leur subsistance dépendait de ce qu'ils pouvaient trouver. Alors, quand c'était le temps de la moisson, ils allaient dans les champs et ramassaient les épis que les moissonneurs avaient laissés tomber, qui n'étaient pas dans les gerbes, donc. Ils ramassaient les épis et, à force de ramasser un épi ici, un autre là, finissaient par en trouver assez pour se nourrir pour la journée. Ou peut-être deux jours. Puis revenaient le lendemain encore et commençaient à continuer de l'année, ramasser des épis. En fait, Ruth s'est engagée à faire quelque chose d'utile et de nécessaire, selon sa capacité. Elle s'est fait servante. Dans un livre que j'ai à la maison, j'ai trouvé une définition de ce que c'est que vivre. Et il dit, vivre, c'est servir. Pour nous chrétiens, vivre, c'est servir. C'est nous engager à servir les autres. Et l'apôtre Pierre a dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et Pierre dit, chacun d'entre vous, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Et je crois qu'on est tous capables de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, parce que servir, c'est au dehors aussi. Se rendre disponible. En fait, demandez au Seigneur, « Seigneur, montre-moi comment ou en quoi je peux servir. » Faites-vous-en pas, il va vous le montrer. Dieu répond à nos prières. Il va nous enseigner. Et là, il y avait Boaz qui est arrivé. Le nom de Boaz veut dire « en lui est la force ». Et Boaz, c'est le maître de la moisson. Une image du Seigneur Jésus, notre maître à nous. Et comme par hasard, Ruth est allée dans le bon champ, un parent du clan d'Élimélec. Alors, Ruth est allée dans ce bon champ-là pour y travailler. On voit que la main du Tout-Puissant était avec elle. Naomi avait dit, « Ah, le Tout-Puissant m'a rendu amère. Appelez-moi Mara maintenant. » Mais voyons maintenant que la main du Tout-Puissant est avec Ruth et avec Naomi aussi pour leur bien. Dieu agissait au travers de cela, frères et sœurs. Glaner, c'est une tâche ingrate, une tâche fatigante, pas tellement payante, un épi à la fois, mais c'est comme ça qu'on fait survivre. Servir, des fois, c'est peut-être pas grand-chose. La bouteille d'eau qu'on peut avoir ici. Servir, c'est s'occuper des enfants à la garderie. C'est pas ce qui est le plus édifiant, mais combien c'est utile, par exemple. Et j'ai lu cette pensée qui dit ceci. C'est une grande chose que d'être fidèle dans les petites choses. Fidèle dans les petites choses. Si on apprend à servir là où on est, Dieu va nous amener un peu plus loin, à autre chose. Et puis, comme ça, petit à petit, on sert. Servir demande des efforts soutenus. Glaner, ça voulait dire être penché à la journée longue, comme ça, ramasser des épis, les mettre de côté, aller ailleurs, ramasser des épis encore, pour ne pas être mal au dos. Alors, servir, c'est ça. Des fois, c'est fatigant. Mais des efforts qui peuvent être payants. Des efforts qui, des fois, n'ont pas de beaucoup de résultats apparents. Ceux et celles qui enseignent les enfants au sous-sol, il y a certains dimanches que les enfants ne sont pas trop attentifs, un peu distraits, c'est plus de discipline, des fois que tu as l'impression d'enseigner. Mais pourtant, ça a un impact dans la vie des enfants. On ne s'en rend pas toujours compte. Les efforts soutenus qui, pour ceux qui participent à des comités, finissent tard le soir. Moi, le pasteur m'invite aux rencontres du conseil d'administration de l'Église. Mais quand il est rendu 9h, 9h30, là, comme je suis juste un invité, je m'envoie chez nous. Ils finissent sans moi. Je suis juste un invité, mais j'aime ça participer. Servir, frères et sœurs, c'est exigeant, comme chrétien. C'est un renoncement aussi, bien des fois. Servir quand ça ne te le dit pas. Quand il y a une situation qui se présente, que tu n'as pas vraiment envie de t'impliquer dans ça, mais Dieu t'amène là. L'apôtre Paul dit ceci aux Colossiens, et je trouve que c'est une parole vraiment encourageante. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Alléluia! Quoi que ce soit que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. Vous servez le Seigneur avant toute chose. Wow! Votre service vient de prendre une grande ampleur, hein? Beaucoup plus important que vous pensiez. On sert le Seigneur. Une autre pensée que j'ai notée dit ceci, un bon serviteur n'oublie pas ses responsabilités, ne les évite pas et ne les néglige pas. Il n'oublie pas, ne les évite pas et ne les néglige pas. Mais servir, ça a fait en sorte qu'on ne passe pas inaperçu. Et Boaz a remarqué Ruth. Elle n'est pas passée inaperçue. Elle n'a pas cherché à se faire remarquer. Mais son attitude de servante a démontré vraiment qu'elle avait un bon cœur, non seulement pour elle, mais pour sa belle-mère aussi. Qu'elle était là comme pour aider. Et nous voyons au chapitre 2 et au verset 8, je vais vous lire ceci. Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas donner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère, le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que tes récompenses soient entières de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Boaz a commencé à diriger son service. Et voyez-vous, le maître de la moisson, notre maître de la moisson, est celui qui veut diriger notre service. Il veut nous utiliser. Il veut nous bénir dans le service que nous accomplissons, qu'il soit ici ou dehors. Boaz a assuré sa protection. Jésus assure notre protection, n'est-ce pas? Il veut nous protéger. Le meilleur endroit, le plus sécuritaire au monde, c'est sous l'abri du Très-Haut, sous sa protection à lui. Boaz pourvoit à ses besoins. Est-ce que Seigneur Jésus pourvoit à vos besoins? Amen. D'une façon ou d'une autre, il pourvoit à nos besoins. Elle s'est prosternée dans un geste d'humilité et de soumission. Et on a chanté ce matin, « Prosternons-nous, Seigneur, dans l'humilité et la soumission à ta volonté, Seigneur. » Elle a trouvé grâce aux yeux de cet homme. La Bible dit quoi? L'homme de bien trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Il trouve la faveur du Seigneur. Ses paroles nous font du bien, frères et sœurs. Il a dit que je trouve grâce à tes yeux. Tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante. Comme la parole du Seigneur nous fait du bien souvent. Elle nous encourage, nous instruit, nous fortifie même. Et en passant, puisque Dieu nous encourage, encouragez les autres aussi. Ayez des paroles d'appréciation envers les autres. Des paroles d'appréciation envers ceux qui nous dirigent dans les chants de la louange. Appréciation avec ceux qui sont derrière là-bas, soit au PowerPoint ou à la console de son. Appréciation envers ceux qui sont à l'accueil. Merci d'être là aujourd'hui. Appréciation envers celles qui s'occupent de vos enfants au sous-sol. Oh, qu'ils apprécient son service. On peut leur dire, les encourager à cela, comme Dieu nous encourage. Sachons apprécier les autres aussi. Des fois, on prend pour acquis bien des choses. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui permet tous ses services. Sachons le reconnaître. Alors, il est dit quoi au verset 15? Elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laissez glaner sans lui faire de reproche. Dieu bénit son travail et Dieu veut bénir le nôtre aussi. Il veut y ajouter une bénédiction. Merci Seigneur. Il ne nous laisse pas nous-mêmes dans ça. Et à la fin de la journée, elle avait 22 litres d'orge, ce qui était tout à fait exceptionnel. Frères et sœurs, Dieu peut nous bénir au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire bien plus que ce à quoi on s'attend parfois. Elle avait beaucoup plus que ce à quoi elle s'attendait. Dieu était avec elle. Le troisième point est celui-ci, le repos. Sa belle-mère Naomi lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. D'abord, pour savoir ceci, là, Ruth n'a rien fait d'immoral. C'était tout à fait normal à l'époque qu'une servante vienne se coucher aux pieds du maître, et surtout, dans le cas de Boaz, qu'elle savait qu'il était un parent d'Élimélec. Et comme à l'époque, pour les Juifs, lorsqu'un homme mourait, son frère devait prendre sa femme pour épouse. Mais s'il n'y avait plus de frère, c'était aux plus proches parents. Et Boaz trouvait parmi les proches parents. En venant se mettre à ses pieds, elle devait lui indiquer, « Maintenant, Boaz, tu as le droit de rachat pour moi. Tu peux m'épouser. » C'est comme ça que ça marchait. Elle est venue donc à ses pieds, se reposer. Ça, c'est une belle image pour nous. Le Seigneur Jésus nous a racheté la malédiction du péché pour que nous trouvions en lui le vrai repos. Dieu sait que bien des gens dans cette société cherchent le repos, pas vrai? Ils ont recours à toutes sortes de thérapies ou de médicaments pour trouver un repos. Mais j'aimerais vous dire ceci, Jésus donne le repos. Et dans Matthieu chapitre 11, il fait cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Il nous invite. Qu'est-ce qui fait obstacle à mon repos? Les inquiétudes, des fardeaux que je porte, les soucis, la tristesse, différentes choses qui viennent parfois nous empêcher de trouver le repos en lui. L'agitation constante dans mes pensées, il veut nous inviter à lui. Qu'est-ce qui nous prive du repos? Ça peut être d'entretenir des mauvais sentiments envers quelqu'un d'autre. Si j'entretiens de la colère, c'est difficile de trouver le repos vraiment. Si j'ai de la jalousie envers quelqu'un, difficile de trouver le repos. Si je m'adonne à des choses que Dieu n'approuve pas, difficile de trouver le repos. Si je suis lié par certaines choses, des dépendances, le repos n'est pas dans les dépendances. Si je suis engagé dans une relation malsaine, ça m'empêche de trouver le repos. Si dans mon cœur j'ai de la convoitise, je ne parle pas d'une tentation, mais de choses que j'entretiens, de convoitise, de richesse ou de convoitise d'une personne, le repos n'y est pas. Il me faut abandonner ça au Seigneur. Se soumettre à sa volonté. La Bible dit quoi? Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Et il trouve le repos. Il nous invite à venir à lui pour trouver le repos. Se soumettre à lui. J'ai un quatrième point ce matin. La récompense. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. Ça, c'est comme dans les films, hein? Ça commence. Ça finit toujours bien comme ça. Mais c'est une belle image de la récompense pour les chrétiens aussi. Car le livre de l'Apocalypse nous dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. C'est qui son épouse? C'est l'Église. Il lui a été donné de s'habiller de fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta ces paroles. Il ajouta plutôt, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Les noces de l'agneau, frères et sœurs. Dieu nous appelle et nous prépare en vue d'un jour glorieux. C'est difficile pour nous d'imaginer ça va être quoi au ciel. Ça va être quoi toutes ces choses, tout ce qui est annoncé là. Pourtant, c'est aussi certain que la venue du Seigneur sur cette terre. Un jour, l'Église qui sera préparée, qui aura marché avec lui, qui aura payé le prix pour être disciple de Jésus, sera présente, invitée aux noces de l'agneau. Quelle récompense merveilleuse! Il n'y a rien sur cette terre qui pourra battre ça. Dieu nous appelle à cela. Mais ça commence d'abord par une décision à marcher avec lui, à le suivre. Par un service, à nous rendre utiles à l'œuvre de Dieu, par un repos qu'on trouve en lui, et ça finit par la récompense. J'ai dit tantôt en commençant que Ruth ne pensait pas qu'un jour sa vie prendrait, ou son rôle aurait un impact aussi grand que dans les ascendants du roi David et du Messie. Et Dieu veut vous utiliser souvent dans votre faiblesse. Souvent, on ne se sent pas à la hauteur de ce qu'on est demandé de faire. Tant mieux, c'est là que Dieu nous aide. Alléluia. C'est là qu'il nous fortifie. C'est là que son esprit vient à notre aide et nous rend capables de le faire. Dieu nous appelle à travers ça. J'aimerais qu'on ferme les yeux maintenant, si vous voulez.